Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service de ce jour. Nous allons à présent parler de la paix, à quand la paix durable en République démocratique du Congo. Le pays fait face à une crise sécuritaire depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise qui a trop longtemps duré? Nous avons en ligne M. Junior Moïse Monsensengoya, entrepreneur et président national du parti Énergie Nouvelle. Monsieur Monsensengoya, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. On vous retrouve dans les minutes qui suivent. Des questions et préoccupations. Le standard est ouvert, composé des 081-82-82-827. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Billy Landry Betou assure la mise en onde. Naomi Moutoke coordonne et réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Oh, Capi.
Bien, la poursuite des combats dans la partie est du pays après la signature de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda préoccupe au plus haut point plus d'un Congolais. La situation sur le terrain est loin d'être stable avec des combats intenses et l'occupation de nouvelles villes par les rebelles. Cela occasionne des pertes en vies humaines, des déplacements massifs des populations, des viols, la destruction des infrastructures et autres. La RDC fait face à l'une des plus grandes crises humanitaires au monde avec plus de 7 millions de personnes déplacées. Alors quelles sont les conditions pour une paix durable dans la partie est de la République et que faire pour sortir de cette crise qui a trop longtemps duré? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Vous avez des questions, des préoccupations, des suggestions, et bien le standard est ouvert. Composez le 081-82-82-827. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Monsieur Junior Moïse Monsensengoya, vous êtes entrepreneur et président national du parti Énergie Nouvelle. Ravi de vous avoir aujourd'hui dans ce magazine au Capi Service. La première question est de savoir, c'est d'après vous, pourquoi cette crise sécuritaire a trop longtemps duré en République démocratique du Congo?
Merci, Jean-Louis Kachama. Et par rapport à ça, je dirais que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est de la RDC. Nous continuons à assister à des affrontements persistants entre le FARDC ou Wazalendo et M23. Une situation qui autrefois semblait être négligée. Mais aujourd'hui, toute la RDC est confrontée à une incertitude sécuritaire. Mais je pense que, avant d'aborder le sujet, nous devons premièrement déceler les origines de ces conflits. Puisque c'est un conflit qui trouve ses origines dans les suites du génocide Tutsi au Rwanda dans les années 1994 et des événements au Burundi qui ont conduit des centaines de millions de personnes d'origine ethnique hutu à fuir vers l'Est du Burundi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, cet afflux de personnes a déstabilisé cette région de l'Est. Une région déjà marquée par une tension politique autour. Les Hutus deviennent majoritaires dans le Nord Kivu et cela a entraîné le conflit entre groupes ethniques. Le gouvernement zaïrois était confronté à une crise majeure. Et en 1996, face aux menaces des forces génocidaires qui utilisent le camp des réfugiés aux Zaïre comme base arrière pour organiser des attaques au Rwanda. Tant que la RDC sera une base arrière pour organiser des attaques au Rwanda, dites-vous qu'il n'y aura pas de paix en RDC. Et cela a prouvé même l'incapacité du gouvernement du Zaïre à l'époque et la communauté internationale à régler la question de la présence de tous les rebelles rwandais en RDC. Et la rébellion de Paul Kagame, qui a renversé le régime génocidaire, commence à armer même le Banyamulenge de l'Est du Zaïre et lance des incursions militaires dans la région. Cela marque les débuts de la première guerre du Congo, où l'APR et l'APDEL, une rébellion Banyamulenge avec sa tête Laurent Désiré Kabila, ils ont toujours utilisé les Congolais. Mais derrière cette guerre se cachent plusieurs dossiers. Mais en réalité, c'est une guerre qui était orchestrée et dirigée par le Rwanda. Et c'est une guerre qui a détruit le camp des réfugiés et massacré des milliers de Hutus sur le sol congolais. Et cette coalition soutenue par l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, renverse en quelques mois le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Tandis que Kabila se proclame président et renomme le pays en République démocratique du Congo. Et on sait maintenant comprendre la raison du conflit, puisque dans le rapport de l'ONU, l'ONU a fait un rapport demandé par le Conseil de sécurité. La présence des troupes rwandaises en RDC était motivée par le projet de piller les ressources minières dans la région à leur profit.
Oui. Donc,
c'est de là que nous devons commencer.
Voilà, ça, c'est là même l'origine de ce conflit en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette crise qui a longtemps duré? Vous avez, propositions. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, évidemment, pour sortir d'abord de cette crise, il faut premièrement un cessez-le-feu. Nous allons développer les 8 propositions. Un cessez-le-feu suivi de négociations médiatisées par des acteurs externes. Il y a les Nations Unies, il y a des pays neutres qui peuvent être au centre de la médiation pour aboutir à un accord de paix durable, impliquant des compromis politiques, des mesures économiques et des processus de justice transitionnelle, tout en intégrant la société civile pour construire une paix durable et inclusive. Et parmi les 8 étapes dont on parle de cesser le feu comme première étape, je pense que par le schéma d'un accord formel qui se fera par un engagement écrit et structuré entre les parties concernées, créant des obligations légales. Donc le cessez-le-feu doit être sécurisé par un engagement formel. Et en deuxième étape, nous avons la médiation internationale comme proposition. Une médiation internationale. Lorsqu'on parle de la médiation internationale, nous faisons allusion à une intervention d'organisation comme l'ONU ou des pays tierces pour faciliter le dialogue et superviser les accords. Donc, on ne peut pas se retrouver autour d'une personne qui a des intérêts mesquins où on nous fait signer des papiers et puis nous allons dire que nous avons fini avec, nous avons mis fin avec cette crise, ce conflit sécuritaire entre les groupes armés à l'est du pays, le Rwanda et la RDC. Tout doit être organisé. Là, c'est la deuxième étape.
Oui, la troisième étape.
La troisième étape, nous allons parler du maintien de la paix. Lorsqu'on parle de maintien de la paix, ce sont des forces internationales qui peuvent être déployées pour séparer les armées et stabiliser la situation. Ils descendent sur terrain pour séparer. Ils ne descendent pas comme observateurs, mais ils descendent pour séparer les armées. Par rapport à cette crise qui gangrène notre pays, il y a le M23, RFC, il y a l'armée congolaise. Ces troupes doivent descendre sur le terrain pour séparer ces deux armées. Séparer ces armées et stabiliser la situation. Et la quatrième étape, nous allons parler de négociation et accord de paix. Là, c'est une résolution politique. Et quand on parle des résolutions politiques, nous faisons allusion à un dialogue inclusif. Et le dialogue inclusif implique toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, nous faisons allusion au gouvernement, le groupe armé, l'opposition non armée, le centre, la société civile, il y a de femmes et de jeunes congolais. Tous seront invités autour d'une table dans des discussions. C'est ça une résolution politique. Et comme cinquième étape, c'est les gouvernements d'unité nationale par rapport à ce qui se raconte dans les rues de la RDC. Certaines personnes pensent que c'est le partage du pouvoir. Mais c'est important, pourquoi ? Parce que en faisant la lecture politique actuelle, la situation sécuritaire, nous savons tous que le M23 et l'AFC ont conquis plusieurs territoires congolais. Et ils ont même placé des dirigeants. Et ça ne sera pas facile de dire au M23, vous devez déposer les armes et retourner chez vous, que la paix revienne à l'Est. Ils ont déjà goûté à la source du pouvoir. Et je pense qu'un gouvernement qui aura pour mission de gérer la transition et assurer une représentation équitable. Et le tout se fera pour l'intérêt du peuple congolais et non pour des intérêts égoïstes. Être autour d'une table, c'est pour résoudre le mal qui gangrène le peuple congolais. Puisque cette situation actuelle a causé des morts. Pendant plus de deux décennies, la RDC compte aujourd'hui plus de 20 millions de morts, de femmes violées. Et ce sont des blessures intérieures qu'ils ont créées au sein de l'homme congolais. Et cela s'avère important que lorsque nous allons organiser un dialogue inclusif, que le peuple se retrouve autour de cette table. Et que le peuple se retrouve après la signature de ces accords. Le peuple doit se retrouver par un cessez-le-feu, et le peuple doit se retrouver aussi par un développement durable. Et le sixième
point.
Oui, nous parlons de la mise en place d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle aura pour objectif de reconnaître les injustices passées pour restaurer la dignité des victimes et des personnes lésées. Pendant plus d'une décennie, le peuple congolais précisément à l'est du pays, ont connu de l'injustice. Ce peuple congolais a été lésé et il faut maintenant reconnaître ces injustices.
Et les réparer surtout.
Et elle sera reconnue.
Et les réparer.
Et réparer, bien sûr. Et les réparer, bien sûr. Par cette justice transitionnelle et établir la responsabilité et lutter contre l'impunité. Et cette justice transitionnelle doit promouvoir la réconciliation entre les communautés et le gouvernement. Puisqu'il ne suffit pas seulement de mettre en place un gouvernement d'unité nationale et nous tournons la page. Donc, après avoir réparé, il faut qu'il y ait une réconciliation entre le peuple et le gouvernement. Et le gouvernement doit promettre à ce peuple. Lorsque nous parlons du gouvernement, on voit le gouvernement d'unité nationale.
Bien.
Ceux qui ont porté les armes.
Oui.
Et ceux qui n'ont pas porté les armes.
Bien, Monsieur Junior, mon c'est un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous avons 4 auditeurs déjà en ligne. Nous parlons de la paix durable en République démocratique du Congo, à quand l'avènement d'une paix durable. Thomas Ougeni, vous êtes à Kisangani, Achille Kassongo à Lubumbashi, Jeannot Louembwe nous appelle de Kolwezi, et Gaston Gandou de Kinshasa. On commence avec Thomas Ougeni de Kisangani. Bonjour et quelles sont vos préoccupations?
Bonjour, bonjour Monsieur Jody. Et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je pense, Monsieur Tati, l'est de la RDC depuis des décennies, le théâtre, en tout cas, des conflits armés. Et cela fait à ce que les gens de l'est, en tout cas, traversent des moments très difficiles, Monsieur Jody, avec la guerre et le confort. Et pour moi, à ce qu'il y ait des conditions d'une paix durable, premièrement, d'abord, monsieur Tati, je dis, il faut qu'il y ait la stabilité politique et la gouvernance inclusive, monsieur Jody. La première condition pour qu'il y ait la paix durable réside aussi dans l'établissement des cadres politiques stables, fondés sur la démocratie, mais également sur la bonne gouvernance, monsieur Jody. Ça, c'est la première condition que moi, je pense. Deuxièmement, l'invité à parler, je devais marier à ce qu'il disait de la justice traditionnelle ici, avec également la réconciliation nationale, monsieur Tati. La réconciliation entre les différentes communautés, mais également est très cruciale pour résoudre ces problèmes. Et cela nécessiterait, ou cela doit contribuer dans l'espace de mise en place des mécanismes de justice traditionnelle, ce que l'invité, et cela permettra ce que de traiter tout le monde. Si vous êtes que vous avez commis des crimes, là, vous devez être sanctionné conformément à ça, monsieur Tati. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut tirer ici, c'est quoi, comme il est tout puissant. La justice traditionnelle a un rôle à ça. Il y a des gens qui ont commis des crimes, doivent être sanctionnés pour le seul besoin qu'ils ont eu à faire. Un autre point, c'est également le développement économique et social. Ça, si je vais citer par ici, en fait, le développement économique est essentiel également pour créer un environnement propice à la paix, monsieur Tati, monsieur Jody. On doit se lancer dans les investissements, dans les infrastructures, mais également dans l'éducation, sans oublier également la santé qui devait être primordiaux afin d'améliorer en tout cas les conditions de vie des populations. Afin qu'il y ait des pistes de solutions, premièrement, monsieur Jody, il faut qu'il y ait les dialogues, le renforcement en tout cas, les dialogues entre les locaux. Nous devons, même si la guerre ne peut pas se terminer seulement sur le plan en utilisant des armes. Le dialogue doit être là. Il faut qu'il y ait le dialogue dans ce sens-là. Pour sortir de cette crise, il y a trop d'irées. Il faut qu'il y ait en tout cas le dialogue entre les différents acteurs, mais également nationaux, mais également internationaux, si ça peut permettre. Deuxièmement, il faut qu'il y ait le DDFR, ça doit être là, la démilitarisation et le désarmement des groupes armés. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être comme une solution également. Les groupes armés sont là, les autres groupes armés sont prêts, les gens qui sont là sont prêts à rendre les armes. Mais le DDRC doit être là pour les accompagner, pour les accompagner avec la volonté que ces gens-là ont. Mais également, on doit les soutenir. Si quelqu'un veut, après, au prix qu'ils puissent être resserrés, en tout cas.
D'accord. Merci beaucoup, Thomas.
Dans la vie civile, c'est aussi très important.
Merci beaucoup, Thomas. Achille Kassongo de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Je ne sais pas si vous m'écoutez.
Oui, on vous écoute. Allez-y.
Merci pour la parole. Je pense que la question de la paix, chacun est libre d'analyser selon ce qu'il veut. Pour moi, je pense que la route vers la paix durable dans notre pays est encore très, très, très longue. Tant qu'il n'y aura jamais l'équité dans notre pays. Et pour un pays comme le nôtre, riche en ressources naturelles, donc nous ferons toujours face à des convoitises des grandes puissances mondiales. Et ces grandes puissances vont toujours chercher à financer des groupes armés pour nous déstabiliser. Et donc, ce que nous, on devait faire, pour moi, je pense premièrement, ce n'est pas d'avoir avoir confiance de penser que la paix viendrait de l'Orient ni de l'Occident, parce que je pense que l'ancien président le disait toujours. Et c'est, premièrement, c'est d'avoir une armée de fer, c'est-à-dire une armée capable de résister à toute menace en cas d'attaque. Parce que c'est parmi aussi les missions de l'armée dans un pays. Et deuxièmement, je pense que la chose à faire, c'était de promouvoir l'unité nationale. Parce que si nous sommes unis en interne, je pense que même l'ennemi qui va venir, quand il nous trouve que nous sommes unis, il aura une tâche très difficile à pénétrer. Je prends juste l'exemple de l'ancien président. Je pense qu'on ne peut pas toujours dire que Kabila a dirigé pendant 18 ans, tout ce qu'il a fait était toujours mauvais. Non, je ne peux pas aussi me permettre de dire que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est toujours mauvais. Non, mais il y a quand même du côté que nous pouvons apprécier. Si nous prenons l'exemple de Kabila à l'époque, je pense que le pays était divisé. Il avait quand même réussi à unifier le pays et il s'est fait appeler l'artisan de la paix, n'est-ce pas? Il a accepté de diriger, de co-diriger, j'arrive avec les Mbemba et les autres là, juste pour avoir la paix. Et aujourd'hui, Fatou au pouvoir, ils sont en coalition avec les etc. Il est là, il décide de rompre ce mariage-là et cela a engendré beaucoup de choses. Je pense que vous les connaissez. Et aujourd'hui, vous allez dire que la manière dont le gouvernement est en train de gérer les pays, bon, moi je me permets de dire qu'il a pris les tout un pays en otage, parce que vous allez vous rendre compte que dans certaines provinces, il y a même des gens qui disent que non, nous voulons que ces ennemis-là viennent au lieu de vivre cet enfer que nous sommes en train de vivre sous Fatih.
Alors, Achille,
il y a la corruption, il y a les gens qui sont en train de perdre du boulot à cause de leur appartenance. Et cela ne favorise pas une cohésion. Cela ne favorise pas un climat de cohésion nationale. Donc, je pense que les gouvernements actuels doivent vraiment faire un effort afin de promouvoir l'unité nationale, bannir la corruption, bannir tout ce qui est arrestation arbitraire. Aujourd'hui, nous apprenons que Chader est arrêté. Je pense que cela va encore enfoncer les pays dans un climat vraiment de... Je ne sais pas comment le qualifier. Donc, il faut travailler à ce qui est l'unité nationale dans ces pays. Parce que l'ennemi qui viendra, s'il ne trouve que nous sommes unis, je ne sais pas, il aura ce couloir-là pour entrer. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire à ces compagnons. C'est parce que vous savez, pendant que nous sommes en train de dire rester au Katanga, quand vous allez vers les réseaux sociaux, il y a les gens qui disent que non, Mounaka Wasana, il faut beaucoup, il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Parce qu'ils sont fatigués de ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Et si nous essayons de voir les gens qui travaillent aujourd'hui dans des institutions, les autres ont perdu même des numéros matriculés parce qu'il est de telles tribus, il est de telles tribus. Et donc, tout ça, ça ne favorise pas vraiment un climat d'idées.
D'accord, merci beaucoup. Donc, vous avez fait vos propositions à avoir une armée professionnelle, bien formée, équipée et disciplinée, et puis promouvoir l'unité nationale. Jeannot Louemboué de Kolwezi, bonjour.
Monsieur Jody, je salue les auditeurs et l'invité. Permettez-moi que je vous dise, quand il lui fallut au président de faire ses discours, ces derniers, il avait fait mention de certains versets bibliques disant « Le ténèbre ne régnerait pas toujours ». Ça, c'est selon le président de la République. Alors, vous allez me permettre d'utiliser la même Bible pour donner mon argument. Monsieur Jody, si nous sommes dans les livres de Jacques, chapitre 5, verset 12, ce livre nous dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui. » J'ai dit bien, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Là, ma question, ma première. À quoi, en 2018-2019, là, je vous rappelle que c'est après la prise du pouvoir de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que nous connaissons cet état de pourriture qu'on appelle guerre aujourd'hui. et les choses s'étaient aggravées. À quoi est-ce que le président avait dit oui et a renoncé plus tard pour que nous nous trouvions dans ce en quoi on se trouve aujourd'hui? Parce que la Bible ici, dont il a évoqué certains versets, a dit « Afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. » Monsieur Jody, Dieu étant un homme de paroles, un Dieu de paroles, si vous avez piétiné sa parole à lui dans la Bible, je vois mal que nous sortions de ces ténèbres dont a fait mention le président de la République. Parce que il lui est arrivé de renoncer, de revenir à ses paroles, d'être un peu non respectueux de certaines choses qu'il avait dites. Et ce sont les choses qui ont énervé ceux qui sont aujourd'hui utilisés comme les bras de fer du Rwanda. Parce que le Rwanda ne peut pas venir comme ça, se réveillant le matin. Il utilise toujours les Congolais énervés, les Congolais en colère, pour faire du mal aux Congolais. C'est ça la question, M. Jody. Laissez-moi poursuivre en disant ceci. Si vous prenez la même Bible, je suis en train de répondre à l'opinion congolaise.
Alors, ne prenez pas beaucoup de temps parce que les autres attendent à passer directement aux propositions. Jody. Quelles sont vos propositions pour une paix durable?
Je vais finir. Laissez-moi prendre ces derniers. Vous prenez Proverbe 16-18 qui dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et M. Jody, on est en train de chuter, pas chuter dans le sens de finir la guerre, mais chuter dans le sens de se faire dompter par ceux qui viennent en homme fort. Pourquoi? Parce qu'on refuse carrément le dialogue. On est en train de dire non, ils vont chercher à vouloir co-diriger avec nous. Moi, je comprends que notre gouvernement est en train de se comporter comme un nourrisson qui, toute la journée, n'a pas eu le sein de sa maman. Et quand maman revient le soir, l'enfant s'accapare du sein de sa maman en train de taper tout le monde avec le coup de pied. Pourquoi l'enfant veut s'accaparer de ce sein-là? Ils ont longtemps cherché le pouvoir pendant 37 ans et ils ont aujourd'hui le pouvoir. Ils ne veulent pas entendre une oreille, voilà, les gens cherchant à pouvoir faire le dialogue. Et ceux qui se font tuer, ce sont des inconnus de la République comme vous et moi.
Alors, quelles sont vos propositions pour arriver à une paix durable?
Que le gouvernement accepte d'écouter ces gens qui sont les plus forts sur le terrain, de s'asseoir sur une table avec eux pour savoir si réellement ils vont chercher à co-diriger avec le gouvernement. C'est ça le problème.
D'accord. Merci beaucoup. On va prendre Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour, Maître Gaston.
Bonjour, Jody.
Bien. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à une paix durable en République démocratique du Congo?
Bon. D'abord, il faut retenir que le problème de l'insécurité à l'Est là-bas, c'est une question liée à la minorité, hein, qu'il faut coûte que coûte protéger. Et cette minorité, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, hein, au Rwanda, devant cette grande majorité de Tutsi que nous sommes, entre autres, des Bantous. Alors, il se fait que ces gens-là se trouvent sur notre territoire. C'est ce que les gens n'arrivent pas à dire. Ces gens-là se trouvent sur notre territoire depuis les indépendances. Je pense à l'époque, c'était même... C'était Congo, Rwanda, Burundi. Il y a eu des Tutsis qui ont migré de l'autre côté. Et depuis lors, depuis les indépendances, je peux dire, ces gens-là réclament la nationalité d'origine congolaise. Mais ils l'ont eu. Ils l'ont eu depuis 2004. Ils ont cette nationalité. Alors la grande question que je me pose aujourd'hui, en quoi ils se sentent encore à l'insécurité, étant donné qu'ils sont reconnus comme Congolais d'origine? Deuxièmement, il y a cet aspect-là de protection, hein, comme Israël est protégé aujourd'hui. Il faut à tout moment manifester l'inégalité, l'injustice en contre d'autres, la majorité, pour protéger. Et cette injustice-là, c'est juste pour se sauver les États-Unis derrière le Rwanda, la minorité, là, pour mater la RDC. Et il faut aussi reconnaître que la partie là de l'Est, si je peux même dire toute la RDC, aujourd'hui n'est plus sous la gouvernance des Congolais même. Ce sont certains Congolais, et ça ne date pas de l'époque de ceux qui sont là, et qui s'arrangent avec ces puissants étrangers pour imposer leur domination sur la RDC. La RDC n'est plus sous la gestion des Congolais.
Alors, qu'est-ce qu'il faut... D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une paix durable?
Bon, peut-être qu'il faut attendre le changement du système. Il faut attendre le changement du système. Tant que les Rwandais, les plans géopolitiques jouent un grand rôle aujourd'hui, serait toujours... Parce que je me pose aussi la question. Les Rwandais n'ont jamais accepté qu'il ait un conflit avec nous. Et nous, nous crions à tout moment que nous sommes agressés par les Rwandais. Aucune instance internationale n'a reconnu ouvertement, surtout les Nations Unies n'ont reconnu ouvertement que nous sommes agressés. Mais lorsque nous partons négocier avec les Rwandais pour la paix en RDC, au moment où récemment ce sont des rebelles locaux ici qui viennent nous agresser, des Rwandais, qui viennent, des M23 là qui nous attaquent. Vous voyez pas qu'il y a une grande confusion, on n'arrive pas à comprendre, hein? Est-ce qu'il s'agit d'une agression ou d'une rébellion? Cette constitution-là, bon, je pourrais même dire que s'il s'agissait d'une agression, peut-être on pouvait crier à ce que le Conseil de sécurité qui a la force, qui a la prérogative d'agir lorsqu'il s'agit d'une agression constatée, de faire son travail. Et le cas contraire, demander aussi à l'État congolais d'utiliser ce qu'on appelle la légitime défense, qui est autorisée. Lorsqu'on vous tape à tout moment, il ne faut pas aussi se laisser...
D'accord, merci.
Il faut réagir.
Il faut réagir. Merci beaucoup, Maître Gaston. Merci beaucoup. Monsieur Moncey Sengoya, vous avez suivi les différentes propositions des auditeurs. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez... votre réaction par rapport à toutes ces propositions-là?
Oui, merci, Monsieur Kobi. Ma réaction par rapport à toutes ces propositions, premièrement, j'ai compris qu'il y a un problème lié à la justice transitionnelle et aussi à la responsabilité de l'État congolais, le gouvernement congolais. Et d'une autre part aussi, il y a un problème lié à certaines frustrations de la part de l'opposition armée. Et si on doit parler de cette justice transitionnelle, il y a un intervenant qui a abordé un point qui est vraiment important par rapport aux sanctions. Et je pense que nous avons des piliers principaux dans une justice transitionnelle. Il va d'abord rechercher la vérité. Il faut mettre en place des commissions d'enquête. On ne dit pas qu'on doit tourner la page à tous ces crimes organisés en RDC pendant plus de 2 décennies. Là, c'est cracher sur le mort. Et cette commission d'enquête, il y aura une identification d'archives, histoire officielle, pour établir le fait et les responsabilités. Parmi les piliers, nous aurons aussi une poursuite judiciaire. Juger les auteurs des crimes, parfois par des tribunaux nationaux ou internationaux. Puisque hier, nous avons tous crié que Kagame est sanguinaire, c'est un criminel. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que aujourd'hui, la Kagame est lâchée par l'accord de Washington. On ne peut plus traiter Kagame ou encore ses alliés de criminels. Non, nous devons mettre en place une justice transitionnelle pour organiser des poursuites judiciaires. Il faut réparer la réparation pour les victimes, l'indemnisation, la réhabilitation des soins médicaux, la restitution, les excuses publiques. C'est vraiment important. Nous sommes bantous, on ne peut pas ignorer. Il y a eu des crimes de guerre organisés à l'Est. Plus de 20 millions de morts, de pertes de vie, lui-même. Et on doit garantir des non-répétitions, une réforme constitutionnelle, juridique, institutionnelle, et renforcer même la société civile pour empêcher des futurs abus. C'est tellement important. Et de la part du gouvernement,
L'État doit jouer un rôle crucial en garantissant la justice, l'inclusion, en promouvant des institutions transparentes. Il y a un intervenant qui a évoqué un point en disant qu'un acteur politique vient d'être arrêté. Nous avons appris cela, il y a des problèmes dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi l'État doit s'impliquer pour établir un climat où les gens se sentent respectés. Un climat où les gens se sentent respectés, qui doit passer de la confrontation à la coopération. À tout niveau, entre les communautés et le gouvernement, que les gens ne se sentent pas lésés. Nous avons suivi les discours du chef de l'État entre les deux chambres. Ben, je pense que là, ça n'engage que le président, c'est l'État de la nation. Il a parlé. Et je pense c'est une routine.
Bien,
le
donc
le Congolais est habitué à ces discours.
Oui. Alors, Monsieur Moncessé, vous avez proposé, vous avez 8 propositions pour arriver à une paix durable. Vous avez déjà cité 6. Vous avez commencé par le cessez-le-feu, la médiation internationale, le maintien de la paix, les dialogues inclusifs, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la mise en place d'une justice transitionnelle. Alors, pouvez-vous passer au 7e et 8e point?
Oui. Le 7e, nous parlons d'un accord économique. Je pense qu'il y a même un intervenant qui a soulevé ce point, l'accord économique. Il faudrait qu'il y ait des clauses sur la gestion des ressources stratégiques et l'aide à la reconstruction. Puisque cet accord doit favoriser l'intégration régionale et encourager les développements mutuels en incluant des règles sur les services, la propriété intellectuelle et les normes. Tout doit se faire sur papier et tout doit être sécurisé par des textes juridiques. L'accord économique a pour objectif la libération même des échanges, du développement économique et coopération. Cela est vraiment d'une grande importance, puisque selon les rapports de l'ONU par le Conseil de sécurité,
oui,
que ces rapports disent clairement noir sur blanc que ce conflit est lié à l'économie, aux ressources minières. Et tout doit être sur papier. Il faut qu'il y ait des accords économiques.
Et on peut dire par là que l'accord de Washington a déjà résolu ce problème.
Non, mais cette affaire de Washington, je ne vois pas la société civile. Ce n'était pas un dialogue, ça. Ici, nous parlons du dialogue. Ça doit être autour de Congolais, un dialogue inclusif. On doit d'abord connaître la vraie cause de ces conflits entre le M23, AFC et les gouvernements en place, puisque le peuple en souffre. Ça doit se faire autour d'une table, un dialogue bien défini, et non une rencontre entre 2-3 personnes, non. On doit mettre les mécanismes en place. Le peuple congolais doit sentir l'exécution de tout ce qui a été coché sur papier. Et ce qui a été coché sur papier doit être encadré par des textes juridiques ayant des conséquences sur ceux-là qui ne vont pas respecter. C'est ce qui devrait être fait.
Voilà, 8e point pour arriver à une paix durable en République démocratique du Congo.
Oui,
Monsieur Moncessé.
Là nous parlons d'une réforme institutionnelle. La réforme institutionnelle, c'est vraiment important, puisque nous aurons la réforme institutionnelle a des objectifs. L'objectif de cette réforme, c'est d'améliorer la gouvernance, l'efficacité et la légitimité des institutions. Puisque l'opposition armée, le M23 et AFC, déplore le manque de leadership dans notre pays, au gouvernement actuel. Et voilà, lors de ces dialogues,
nous allons veiller à ce qu'il y ait une réforme institutionnelle par rapport aux frustrations et aux plaintes des gens.
Bien, un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de des choses à faire pour une paix durable en République démocratique du Congo. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Joseph Laziri à Kinshasa. Erifin Bonso à Likasi. Blaise Saïdi de Kisangani, vous avez la parole. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour cher Jordi, bonjour à l'invité ainsi qu'auditrice et auditeur de la radio Capi. Je serai tellement trop bref puisque on doit laisser le temps parce que nous déjà c'est le dernier groupe pour intervenir et laisser le temps à l'invité de conclure.
Oui.
Cher Jordi, à mon avis, la crise persistante dans l'est de notre pays est avant tout les résultats d'un déficit de gouvernance, de la justice et de la souveraineté réelle. Les solutions militaires seules ont montré leurs limites, tout comme les accords signés sans application sincère. Cher Jody, tant que l'État ne sera pas pleinement présent pour protéger les populations, gérer équitablement les ressources et sanctionner les responsables, la paix restera fragile. Je dois aller tout juste à quelques questions. La première question, pourquoi la population civile reste-t-elle les principales victimes malgré la présence des forces armées nationales et internationales? La deuxième question, comment expliquer la longévité des groupes armés dans l'est du pays? La troisième question, comment assurer le respect réel d'un cessez-le-feu dans les zones de conflit? Et pour citer, quel rôle concret la jeunesse congolaise peut-elle jouer dans la construction de la paix? Je me limite à ce niveau-là pour laisser place à d'autres personnes.
Merci Blaise Saïdi. On va donner la parole à M. Joseph Laziri de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio. À ce moment.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Joseph, pour l'avènement d'une paix durable en RDC?
Je ne voudrais pas reprendre ce que mes prédécesseurs ont parlé. Je voulais juste solliciter Tiba Maya, qui est la structure, vienne encore pour nous expliquer comment. Il n'est pas encore bien compris par la plupart de notre population. Il nous explique un peu quel est son chemin parce que tous les autres pays ont été appliqués. Chez nous, ça ne marche pas pour le moment. Alors, deuxièmement, une conscientisation que nous devons faire. Il fallait que notre gouvernement prenne ces choses au sérieux parce que les Rwandais ne combattent pas les pouvoirs du gouvernement. C'est un combat des races. Donc, on cherche à créer le Rwandais et Tutsi. Mais tout ce qui cherche à envahir notre race de bandits, et c'est le plus dangereux, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, les pouvoirs en place sont partis, et le combat restera toujours. Alors, nous devons être unis et combattre que ces réalités ne puissent pas se réaliser. Parce que tous là sont en train de. Ils disent des lois, ils disent qu'ils veulent libérer la population, mais regardez là où les gens sont occupés. La population ne vit pas comme elle vivait avant. C'est quel genre de libération où on peut être dicté aux gens des lois qui ne respectent aucune forme de loi ou je ne sais pas quoi dire.
Bien, merci. Arifin, bonsoir et Delicacy, bonjour.
Bonjour, merci M. Jody Kachama. J'aimerais encore saluer l'invité du jour, ainsi les millions d'auditeurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Pour moi, j'aimerais juste contribuer en disant ceci, que lorsqu'on est au pouvoir pour avoir la paix durable avec les autres, il ne faut pas proposer à changer la Constitution. Parce que lorsqu'on propose aujourd'hui de changer la Constitution, donc dans les camps adverses, ils vont penser que ce monsieur-là veut s'éterniser au pouvoir. Et maintenant, pour les barrer, qu'est-ce que nous allons faire? Là-bas, il y aurait un manquement de confiance. Et ce manquement de confiance-là, va amener les gens à la guerre. C'est ce que nous avons vécu, c'était l'année passée, lorsqu'il y avait un discours de changement de constitution, et après cela, nous avons constaté que les villes et cités étaient en train de tomber. Oui, on est congolais. Le deuxième point qui doit nous permettre, parce qu'après avoir fauché, on peut demander pardon, même la Bible est claire. Nous pouvons aller au dialogue sincère. Et ce dialogue-là, la population doit aussi être participative pour voir comment est-ce que les choses vont bien évoluer. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est dépourvue du travail. Et maintenant, cette jeunesse-là qui est dépourvue du travail, qui n'a pas de l'emploi, lorsque demain ou soit le lendemain, on va l'appeler pour qu'elle soit, moi je ne sais pas, rebelle, et par là, elle va accepter. Et parce qu'on va lui donner de l'argent. Et maintenant, au lieu de cela, l'État doit barrer toutes ces choses-là, à partager équitablement la richesse de notre pays, et se créer de l'emploi, donner du courant électrique aux gens, pour qu'ils travaillent en toute étude, donner de l'eau, donner et cultiver beaucoup plus pour chasser de la famine. C'est ainsi que nous aurons un bon Congo. Merci, c'était ça ma préoccupation et mon intervention. Merci.
Bien, Jean-Claude, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi, et bonjour, Léviti.
On vous écoute.
Merci, et merci beaucoup. Je pense que pour avoir la paix durable dans ces pays, la RDC, la première chose que nous devons faire, nous, les Congolais, c'est d'abord aimer ces pays. Et deuxièmement, je pense que nous voyons que la guerre, elle est déjà née. Alors, pour avoir la paix durable dans ces pays, il faudra que l'État congolais puisse combattre la cause de la guerre au lieu de combattre les conséquences qui sont déjà nées de la guerre. Parce que c'est parmi les grands défis dans ces pays. Moi, je pense que parfois, si on crée la guerre ici, dans ces pays, c'est parfois, par exemple, le chômage. Il faudrait d'abord résoudre les problèmes du chômage, pas combattre les conséquences qui viennent du chômage. Ou alors, deuxièmement, je pense qu'il faudrait que l'État puisse renforcer ses fonctions régaliennes. Parce qu'il faut parfois la faiblesse de l'État qui crée les sécurités. Et moi, je suis de cet avis que tant que nous combattons les conséquences qui naissent de la guerre, jamais ces guerres ne peuvent se terminer. Alors il faudrait bien qu'on puisse combattre la cause. Qu'est-ce qui crée la guerre? Qu'est-ce qui crée les sécurités? Alors, je pense que, je suis devant votre radio, l'État doit commencer d'abord à combattre les conséquences, les causes de la guerre. Merci beaucoup,
monsieur. D'accord, merci, je vous en prie. Monsieur Monsense Ngoya, à vous la parole.
Oui, mon frère, j'ai bien suivi nos intervenants. J'aimerais intervenir aujourd'hui par rapport à notre frère de Kisangani, je pense, qui a parlé du changement de la Constitution. Puis là, je parle comme centriste. Le changement de la Constitution a des conséquences positives et négatives. Surtout pour un État, un pays qui est en voie de développement. Il y a des conséquences positives, par exemple, l'adaptation et modernisation, le renforcement démocratique, la stabilité. Et nous avons aussi des conséquences négatives qu'il faut bien analyser avant de prendre certaines décisions. Il y a des conséquences négatives potentielles, l'instabilité politique. Il y a l'instabilité politique, il y a même l'autoritarisme, et bien aussi, il y a les reculs démocratiques, et nous avons des conflits et guerres. Donc c'est un aspect à ne pas négliger parmi les différents points et parmi les différents points exposés par les M23, l'AFCN, tous ces groupes armés, ils ont brandi ces points-là, les discours du gouvernement par rapport au changement de la Constitution. Voilà pourquoi nous devons organiser un dialogue inclusif pour avoir des précisions, voire déceler même les causes réelles de ces conflits. Le dialogue est tellement important pour nous et c'est quelque chose à ne pas négliger. Et je pense que nous devons passer à à notre septième étape, on parlait de la réforme institutionnelle.
Oui, septième étape, vous avez parlé de l'accord économique, et huitième, la réforme institutionnelle pour améliorer la gouvernance.
Oui, la réforme institutionnelle pour améliorer la gouvernance. Cette réforme a des points clés, puisqu'elle est progressive et s'opère à l'intérieur, dans le respect des cadres existants. Donc c'est une transformation structurelle et managériale pour rendre les institutions plus performantes au service de l'homme congolais, au service des citoyens.
Bien, alors pour terminer, en résumé, on retient que pour une paix durable en RDC, vous avez proposé au total 8 points. C'est 8 points ou 9 points au total ?
8 points.
8 points, voilà. Le premier, vous avez parlé du cessez-le-feu. Deuxièmement, la médiation internationale. Le troisième point, le maintien de la paix. Une force internationale pour séparer les partis. Quatrième point, vous avez prôné les dialogues inclusifs. Cinquième, mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Sixième, mise en place d'une justice transitionnelle. Le septième point concerne l'accord économique. Et le huitième, la réforme institutionnelle afin d'améliorer la gouvernance. Voilà, ce sont les 8 points de M. Monsen Sengoya pour arriver à une paix durable en République démocratique du Congo. Alors avant de terminer, est-ce que vous avez un autre élément à ajouter?
Oui, avant de terminer, juste pour éclairer nos auditeurs, puisque le dialogue doit être bien compris. Le dialogue contribue concrètement à réduire la violence et en désamorçant les conflits, en construisant la confiance et en permettant l'émergence des solutions acceptables par tous grâce à l'écoute et à la compréhension mutuelle.
Bien.
Cela, ça a une grande importance pour nous.
D'accord. Merci, Monsieur Junior Moïse Monsen Sengoya, entrepreneur et président national du Parti Énergie Nouvelle. Excellente journée. Merci. Et à la prochaine.
Merci, pareil.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.